Voilà. Donc on va recommencer. Je vais vous donner la parole, Elsa. Donc Elsa Novelli, qui est donc en thèse à PSL, donc Paris Sciences et Lettres à l'ENS et en particulier aux Archives Boussole. Et je me suis permis d'indiquer déjà par avance peut-être le financement que vous êtes en train d'explorer donc grâce donc aux bourses CIFRE. Espérons, croisons les doigts. Voilà, j'espère que ça va marcher. Donc je vous laisse présenter donc vous-même votre sujet de recherche et votre propos d'aujourd'hui.
Merci beaucoup Nathalie, puis encore merci pour cette journée et bonjour à toutes et à tous. J'ai intitulé la présentation de cette journée Individualisation et économie de l'attention, la personnalisation de notre vécu, titre un peu obscur qui j'espère s'éclaircira au fur et à mesure de mon propos. Alors, ma thèse a pour objectif d'analyser les discours les effets des discours néolibéraux sur notre attention, qu'on peut définir à titre préliminaire comme une fonction cognitive par laquelle nous saisissons les éléments importants qui nous entourent. Par discours néolibéraux, j'entends les discours qui tendent à lier les impératifs économiques à la survie de l'espèce humaine. Pour exister, il conviendrait de développer l'économie, c'est-à-dire la gestion optimale des ressources par notre action individuelle. Plus précisément, mon objectif est d'interroger l'effet de cette logique sur notre individuation, c'est-à-dire sur le processus. Oula, il y a un écho. Pardon. Sur le processus de distinction d'un individu au sein d'un groupe. Et de comprendre pourquoi le néolibéralisme semble nous encourager non pas à nous individuer, mais à nous individualiser, c'est-à-dire à nous écarter du groupe. Alors, je n'ambitionne évidemment pas de répondre à cette question aujourd'hui, mais simplement de proposer quelques éléments de réponse. Et je vais aujourd'hui me pencher sur le lien entre le développement de l'individualisation et la personnalisation des marchés économiques en particulier, fondée sur une tentative d'ajuster nos diverses expériences à nos identités. Alors, j'ai choisi cet angle d'analyse parce que mes préoccupations du moment sont la récupération des données personnelles par les algorithmes et je suis encore plongée dans des questions d'ordre numérique qui me pousse à me questionner sur le lien entre le processus d'individualisation et l'économie de l'attention. Car avec les données personnelles, qui sont des données intimes, qui nous concernent directement, c'est une partie de notre identité qui est en jeu. C'est pourquoi j'ai décidé d'orienter cette présentation autour de la question de notre vécu tel qu'il est personnalisé, disons, par l'économie de l'attention. Car cette économie participe, en recueillant notre attention, à notre individualisation. Alors d'avance, je vous prie de m'excuser pour les probables imprécisions qui seront peut-être présentes dans cette présentation, puisqu'il ne s'agit que d'une proposition à affiner. Alors c'est une perspective qui peut peut-être interpeller. Pourquoi lier l'individualisation, l'attention et le vécu? Et surtout, pourquoi parler de personnalisation de vécu? Est-ce qu'un vécu n'est pas toujours déjà personnel, toujours hautement intime? Mon vécu est toujours le mien, n'est pas celui d'un autre. De même, le vécu de l'autre ne sera jamais le mien, malgré tous mes efforts pour tenter de le saisir. Aussi, pourquoi parler de personnalisation de notre vécu dans le cadre d'une recherche portant sur l'attention et le néolibéralisme? Alors, tout simplement parce que l'économie de l'attention semble nous déposséder d'une partie de notre vécu, tout en prétendant le personnaliser à notre place. C'est une économie qui occupe une place importante au sein du néolibéralisme. Selon les travaux d'Yves Citon, dont l'écologie de l'attention par exemple, elle considère l'attention comme une ressource économique, une ressource rare, précieuse, que les entreprises, les publicitaires, les influenceurs ou même nous au quotidien, nous tentons de réceptionner. Quand par exemple je regarde une vidéo sur Internet, je fournis mon attention contre un service, même si parfois je ne m'en rends pas compte. Si je veux regarder une vidéo sur une plateforme, par exemple YouTube, si je peux le citer, je suis la plupart du temps contrainte de regarder une publicité avant de pouvoir visionner la vidéo de mon choix. C'est donc un échange. Je donne de l'attention à quelque chose pour obtenir en retour quelque chose qui m'intéresse encore plus. Si l'attention est une ressource rare, alors la capter n'est pas chose aisée. Toute personne qui cherche à obtenir de l'attention doit trouver le moyen de se distinguer des autres afin de réussir à recentrer l'attention vers elle. Sauf que l'attention n'est pas aussi contrôlable, ni par l'autre, ni par soi-même. Il n'est pas toujours évident de se focaliser sur un objet en particulier pendant très longtemps. Mon attention peut se disperser, se concentrer sur quelque chose d'autre que je ne voulais pas au départ saisir. Par exemple, vous pouvez peut-être là, en cet instant, être saisi par le chant d'un oiseau au lieu de m'écouter, même si mes propos sont peut-être très intéressants. Donc l'attention n'est pas nécessairement liée à une volonté pure et dure, on va dire. Elle peut répondre à l'habitude, à des mécanismes d'habitude qui se sont créés en moi, des associations qui sont créées, ou à l'appel de la récompense, par exemple, si je sais que je vais ressentir une sensation de plaisir, je vais plutôt diriger mon attention vers ce qui va procurer en moi un plaisir. Donc il y a une compétition permanente à l'intérieur de l'individu entre ce que Jean-Philippe Lachaud appelle plusieurs systèmes de valorisation. Ces systèmes guident nos réactions quotidiennes. En d'autres termes, il y a plusieurs circuits neuronaux qui guident nos réactions en valorisant tel ou tel élément plutôt qu'un autre. Cet élément valorisé est évalué comme étant important et comme méritant que notre attention se penche dessus. Et ces systèmes de valorisation sont utilisés par les acteurs de l'économie afin de marquer les caractéristiques propres à l'économie de l'attention, on va l'opposer à l'économie traditionnelle. L'économie traditionnelle, que j'appelle traditionnelle, va considérer qu'il n'y a pas de différence entre les individus. Cette économie s'adresse à tous de la même manière, car elle estime que les valeurs qu'elle promeut sont universelles. Par exemple, tous les individus poursuivent un but eudémoniste. Tout le monde veut être heureux. Et seront donc tous attirés par les marques qui promettent de l'attendre. Comme les individus sont tous les mêmes, ils ont tous le même fonctionnement cognitif, on va dire, ils vont former une sorte de moi impersonnel. Et c'est à ce moi impersonnel que l'économie traditionnelle va tenter de s'adresser. C'est-à-dire qu'on prévoit les comportements des gens, non pas parce qu'on connaît leur personnalité, mais parce qu'on prétend connaître le fonctionnement de leur cerveau. L'économie de l'attention, elle va tenter, alors non pas de surfer, on va dire, sur ce moi impersonnel, qui concernerait tous les sujets sans distinction, mais plutôt de s'adapter aux différences de chaque sujet. C'est une économie qui va tenter de personnaliser notre expérience économique en s'ajustant à nos identités. Elle cherche à s'adapter aux disparités intrinsèques à chaque individu. Et comme elle est fondée sur l'attention, cette économie recherche une sorte de reconnaissance. Et pour ce faire, elle doit tenter de s'adapter aux individus à leurs tendances. Son but est donc de créer de nouveaux marchés en fonction de ce qui différencie entre eux les individus. Elle cherche à s'adresser à eux de la façon la plus intime possible, pour en quelque sorte coller le plus possible à leurs identités. Donc ici, on ne va pas considérer les individus comme étant interchangeables, mais comme étant uniques. Donc cette économie de l'attention, elle prétend s'adresser aux individus de la façon la plus intime possible, en s'adressant pourtant à tous de la même manière. Si par exemple je dis « venez comme vous êtes », je fais un discours très général qui prétend pourtant s'adresser à chaque individualité. Ces deux types d'économies se rejoignent en ce qu'elle considère l'individu comme une entité unifiée, qui ne contient pas de différence à l'intérieur de lui. Je suis ce que je suis, on peut donc tout à fait prévoir comment je vais réagir, puisque mes réactions seront toujours en totale adéquation avec mon identité. Dès lors, toutes mes expériences vont me paraître authentiquement miennes, parce que c'est mon attention qui aura été captée et pas celle d'un autre. quand je navigue sur un réseau social, quel qu'il soit, les acteurs de celui-ci vont tenter d'attirer mon attention. Et pour cela, tous les moyens vont être utilisés pour rendre ou tenter de rendre mon expérience numérique unique. Mon flux d'actualité va être personnalisé en fonction des données que je vais fournir. On va même parfois l'appeler le pour-toi. C'est sur TikTok, le réseau social chinois, on appelle le flux le pour-toi. Sous-entendu pour aucun autre que toi. Donc toute expérience virtuelle semble toujours déjà singulière. D'autant plus que c'est moi qui fournis les données personnelles qui permettent aux plateformes de personnaliser mon vécu. Donc il y a une forte impression, une impression de forte adéquation entre ces données partagées et la réalité de notre expérience vécue sur Internet. Car comme ces préférences connues par les algorithmes sont les miennes et sont le résultat de mon activité plus ou moins consciente sur Internet, on peut avoir l'impression que c'est notre expérience à nous et pas celle d'un autre. Donc mon expérience numérique me paraît toujours nécessairement personnelle et personnalisée par et pour moi et ne ressemblant à aucune autre. Aussi, l'économie de l'attention est directement liée au néolibéralisme en nous enjoignant à devenir nous-mêmes, à être soi-même et pas un autre. Parce que les discours néolibéraux tendent à nous inciter à consommer en fonction de notre individualité ou de nos identités. Nous fournissons notre attention à ce qui est susceptible de construire notre identité. Le problème, c'est que cette construction ne semble pas encourager le développement de l'individuation, donc ce processus par lequel un individu se distingue des autres, devient un être original tout en faisant partie d'un groupe social, d'un collectif, d'une société. Il semble plutôt appeler l'individualisation. Et l'objectif de l'économie de l'attention étant d'obtenir du capital attentionnel, selon les termes d'Yves Citon, et ce capital étant difficile à obtenir, puisque l'attention est un bien rare, volatile, qui n'est pas acquis pour toujours, la différenciation est ce qui va maximiser les chances pour les différents acteurs de cette économie d'acquérir ce capital cognitif. Aussi, la personnalisation de notre vécu, de nos diverses expériences, serait un moyen pour ajuster les marchés à notre identité. À ce stade, je rencontre trois principales difficultés que j'aimerais partager aujourd'hui. D'abord, le terme même d'individualisation. C'est un terme qui semble impliquer en lui-même une distance radicale d'avec tout autre. Je m'individualise, c'est quelque part comme si je prenais une distance radicale avec tous les autres pour devenir moi-même. Pourtant, l'individu n'est pas entièrement autonome. Il n'est jamais entièrement coupé des groupes d'individus. Parce que ça ou ses identités participent toujours de plusieurs communautés qui existent déjà. Si, par exemple, si je suis une amatrice de films de science-fiction, bah, je vais faire partie d'une communauté de fans de science-fiction, etc. Donc, devenir soi ne signifie pas s'affranchir des autres soi, mais plutôt se rapprocher des soi qui nous ressemblent. L'individualisation sera alors un processus de production de soi, mais par rapport à des soi déjà existants, auxquels nous pouvons nous identifier et auxquels nous pouvons tenter de ressembler. Donc l'individualisation ne serait alors pas un processus par lequel l'individu s'individualise radicalement, car il participe à plusieurs communautés qui défendent une ou plusieurs identités déjà existantes. Ensuite, autre difficulté, c'est le lien entre l'attention et l'identité. Un lien qui n'est pas si évident que cela à établir, dans la mesure où notre attention, elle est à la fois multiple et volatile. Tout ce qui nous constitue, tout ce qui participe à notre identité ne provient pas directement d'une attention qui serait soutenue et consciente, disons. Autrement dit, mon attention peut être captée par des éléments qui intéressent mon identité sans que j'aie pour autant conscience de cela. Je peux par exemple être intéressée par les films porno sans me l'avouer. Aussi, les discours néolibéraux vont me tromper en me suggérant que je peux être maître de mon identité ou que mon identité est quelque chose de figé, qu'il faudrait retrouver. Je veux juste partager avec vous un exemple d'un slogan de publicité que j'ai vu passer il n'y a pas très longtemps qui disait « Ressemblez à l'homme que vous êtes ». Slogan un peu étrange qui sous-entend qu'il y aurait une identité cachée à laquelle il faudrait ressembler, qui sous-entend également que nous puissions ne pas être en adéquation avec ce que nous sommes pourtant. Si je suis l'homme que je suis, je n'ai pas à lui ressembler, je le suis déjà. Derrière ce slogan, il y a donc cette idée qu'il faudrait se réaliser en vue de nous rapprocher le plus possible de ce que nous sommes, comme si nous étions jusqu'ici autre chose. Et donc, pour saisir ce lien entre attention et identité, tout va dépendre en fait de la définition de l'identité. Si l'identité est pleinement consciente par le sujet, c'est-à-dire que bah, comme c'est mon identité, forcément je la connais, puisque c'est la mienne, je sais de quoi elle est composée, alors si l'attention est multiple et volatile, peut-être qu'elle ne va pas nous permettre d'aider à déterminer pleinement cette identité. En revanche, si l'identité est plutôt un mouvement permanent qui peut échapper à son sujet, à la conscience de son sujet, alors l'attention jouera effectivement un rôle primordial dans sa construction. Et ce qui est paradoxal dans le rapport entre l'identité et le néolibéralisme, c'est précisément cette tension entre ces deux définitions. On nous dit qu'on est ce qu'on est, mais qu'on ne l'est pas encore assez. D'où cette nécessité de consommer les produits adéquats pour pouvoir le devenir pleinement. Comme si ce devenir n'était en fait qu'une actualisation d'une identité virtuelle déjà là, mais pas un devenir incertain, en mouvement et imprévisible. Ensuite, troisième principale difficulté, le rapport entre le néolibéralisme et le collectif. Le néolibéralisme, donc ce discours, incite les individus à devenir eux-mêmes, à s'auto-analyser en permanence. Il joue un rôle important dans la défense des droits et des libertés individuelles. Aussi, on peut se dire que le néolibéralisme peut constituer une opportunité démocratique. Les individus pourraient s'en saisir, reste à savoir comment, pour améliorer le collectif. Et il me semble que cet encouragement à la défense des droits et libertés individuelles peut s'opérer de deux façons différentes. Soit en permettant à l'ensemble des citoyens de s'approprier collectivement les outils juridiques pour déployer les libertés de tous. Dans ce cas, il pourrait s'agir d'une forme d'individuation collective, voire même d'une transindividuation, d'une démarche qui dépasserait le strict cadre des communautés et des individus, soit en incitant chaque individu à devenir le défenseur des libertés qui lui sont propres, en tant qu'il est un individu original, distinct de tous les autres. Dans ce cas, il s'agirait d'une forme d'individualisation qui serait indépendante de toute démarche collective. Il semble que ce soit la seconde manière d'être qui prime, puisque ces discours font de l'individu la valeur cardinale autour de laquelle tous les marchés vont converger. C'est l'individu qui constitue la nouvelle mesure marchande, et ce en fonction de l'attention qu'il saura accorder aux produits destinés à alimenter l'image qu'il veut donner et se donner de lui-même. Aussi, l'individu participe activement à l'économie, celle-ci devenant une partie intrinsèque de lui-même, car l'individu est à la fois la mesure de toute valeur et celui qui va consommer les produits qui sont équivalents à cette valeur. D'une certaine manière, l'individu va consommer sa propre valeur, celle qu'il va rechercher dans l'économie de l'attention. Il cherche sa propre reconnaissance. Quand je cède finalement mon attention à une publication, je concède mon attention à moi-même, dans la mesure où cette publication me vise. Elle est censée me permettre de me construire, de me définir, etc. Ce faisant, la logique de marché va être intériorisée par les individus qui ne seront plus capables de différencier ce qu'ils sont de ce qui provient du marché. D'où le lien très fort entre l'individualisation et l'économie de l'attention. L'attention devient alors à la fois un outil au service de la formation de soi, de notre identité, et un produit au service de l'économie. Ce qui peut montrer que notre vécu, malgré la tentative et la tentation de le personnaliser, semble nous échapper, non pas dans le sens où nous ne le vivons pas, mais dans ce sens que sa personnalisation n'est en fait pas véritablement la nôtre. Voilà, merci pour votre attention.
You are now unmuted. Merci beaucoup Elsa. Vous êtes absolument dans le temps, dans le timing, c'est parfait. Et merci pour cette présentation et cette ouverture, cette approche, enfin, qui est à la fois reliée de près à votre travail de thèse et en même temps qui indique une piste à prospecter davantage encore. Voilà, ça m'a semblé très, très intéressant, très prometteur, y compris dans cette distinction que vous aviez déjà mise en place entre individualisation et individuation. Vous avez un commentaire de Timothée qui est en licence. Timothée. Sujet passionnant. Merci pour ta présentation claire et pertinente. Je le formule à haute voix pour l'enregistrement aussi. Je pense que c'est un sujet vraiment d'actualité, évidemment, qui permet de mettre en relation deux champs qui, a priori, ne sont pas forcément d'emblée articulés. Même si à travers les travaux d'Yves Citon, évidemment, il y a déjà un certain nombre de matériaux qui sont élaborés, et ça, c'est important de pouvoir prendre appui dessus. Donc je pense qu'il y a vraiment tout un travail effectivement à faire, et surtout là, avec ces nouvelles technologies de deep learning, enfin, on a vraiment un champ de recherche que vous explorez de manière tout à fait frontale et ciblée en même temps, donc je trouve que c'est vraiment très bien. Je n'ai pas de questions immédiates, sauf peut-être une sur l'attention, mais j'y viendrai peut-être après. On va prendre un petit peu de temps, parce qu'on est tout à fait dans les temps. Je donne la parole aux étudiants qui le souhaitent. Miguel Dupont également, donc en licence, qui rejoint Timothée. Merci pour ces propos très éclairants. Donc voilà, vous avez déjà des fans en licence à Rouen, c'est bien. Attention à ne pas créer trop d'attention. Bon, c'est facile. Est-ce qu'il y aurait des questions au-delà des compliments? Les étudiants qui se sont manifestés auraient-ils des questions? Histoire d'inclure également notre cohorte de licence. Timothée, Miguel, ça peut se faire sur le chat si vous n'osez pas prendre la parole directement. C'est tout à fait possible. Ou bien d'autres, je ne vais pas nommer tous les étudiants qui sont là. Moi, j'avais, en attendant peut-être que voilà, certains se manifestent éventuellement, j'avais une question, en fait, qui est plus une remarque en réalité. Concernant le concept d'attention que vous avez choisi de mobiliser, hein, et c'est tout à fait adéquat évidemment par rapport à la thématique que vous avez mise en place autour de la justement de la manière dont la politique économique actuelle, enfin, de nos sociétés crée en chaque individu, dans son unicité, comme vous l'avez très bien montré à travers les exemples. J'ai beaucoup aimé l'exemple pris dans TikTok, je trouve que c'est très bien, c'est exactement ça.
C'est pour toi.
Ouais, c'est tout à fait frappant. Comment on crée finalement de l'unicité, de la singularité, on hyper-singularise la personne pour la valoriser, mais dans un sens évidemment problématique. D'une certaine manière, on crée du narcissisme, je dirais, au-delà même de la de la pertinence d'un certain narcissisme, enfin, bon, qui n'est pas forcément problématique en tant que tel, mais bon, en tout cas, il y a tout un processus de création. Comme on a, dans la société de consommation des années 60, on a créé des besoins, bah, d'une certaine manière, là, on crée... C'est un autre type de besoin, il n'est plus du tout matériel comme il l'était dans les années 60, à travers les publicités, le conditionnement, etc. Là, on, c'est quelque chose de... à la fois de plus subtil et en même temps qui est vraiment au vu et au su de toutes et tous. Enfin, mais je pense qu'il y a un parallèle intéressant à faire par rapport à... enfin, c'est un développement et en même temps c'est la répétition du même avec d'autres moyens, je dirais. Et du coup, la question que je me posais, c'était... ça concerne ce concept d'attention qui, du coup, devient un concept d'attention capté, capturé. On crée de l'attention, mais on l'oriente de manière très... on la suroriente, on la surdétermine d'une certaine façon. Donc évidemment, on voit bien le, comment dire, le regard critique, hein, qui est le vôtre aussi, critique dans le sens de, voilà, de, à la fois d'interrogation, de questionnement et de mise en cause, en fait. Et en même temps, vous l'avez fait sur un mode où l'analyse et l'exemplification permet vraiment de... d'attester du problème, donc c'est pas une critique qui allait être argumentée. Mais du coup, la question que je me posais, c'était est-ce qu'il faut... Alors c'est un peu massif comme question, mais est-ce que c'est le seul concept d'attention dont on dispose, y compris dans cette économie ou dans cette société, on va dire plus largement, dans laquelle nous sommes actuellement. Est-ce que c'est la seule manière de penser l'attention. Et du coup, je me permets, c'est un peu facile, mais je vais me permettre d'utiliser un autre slogan qui a beaucoup circulé aussi, notamment, alors peut-être un peu en amont, mais même encore aujourd'hui avec la crise sanitaire. Enfin, on l'a beaucoup entendu dans le moment des attentats, mais on l'entend aussi autrement, et qui mobilise davantage, alors qui parle d'attention aussi. Évidemment, c'est lié aussi un peu à ce qui m'intéresse, qui le redouble avec la notion de vigilance, qui fait un appel, finalement, un appel à l'attention. Et donc là, on a affaire à une attention qui ne va plus être simplement celle d'un individu qu'on va essayer de surinvestir à partir de ce qu'il est et de la recherche de son identité profonde, mais on va avoir affaire à un concept d'attention qui... alors qui touche l'individu, évidemment, qui touche chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, mais qui en même temps crée une ouverture, je dirais, en direction des autres, en fin de compte, et même de la collectivité, puisqu'il s'agit d'être attentif ensemble. On a un autre type de support. Qui, à mon avis, est tout aussi inclus dans la société néolibérale dans laquelle nous vivons. Enfin, je pense que ça circule de manière aussi forte, finalement, dans notre cadre actuel. Et pour autant, ça semble être complètement aux antipodes, jusqu'à quel point, du premier concept d'attention que vous avez relevé. Donc, voilà, c'était une question...
une question très large à laquelle la thèse doit répondre, en fait.
Non, mais je ne vous demande pas d'y répondre complètement, c'est juste une piste, une ouverture.
Oui, mais vous avez raison, il y a plusieurs modes d'attention, il n'y a pas que celui-ci. Là, c'est celui-ci qui m'intéresse en ce moment, parce que pour essayer de voir de façon très simple quel est le lien avec l'identité, parce que pour l'instant, ce n'est pas très clair dans ma tête non plus. Mais effectivement, il y a cet appel à la vigilance, qui est quasi permanent et qu'on a vu beaucoup dans la crise sanitaire. Le masque en était une des manifestations, on va dire. Je porte le masque, ça veut dire qu'il y a un danger qui est présent, dont je dois être vigilante, que ce soit pour moi-même ou pour les autres. Il y avait tout ce discours et ce changement de paradigme du soin aussi. Parce que le soin, vraiment, c'est une application attentionnée, quelque chose de physique presque, où on a un lien relationnel qui n'est pas vraiment distancé avec l'autre. Or là, le soin devient distanciation. Ce qui était très frappant, et on peut se demander est-ce que ça fonctionne sur le long terme, une attention distancée, est-ce que ça marche ou pas. Donc effectivement, il y a plusieurs modes d'attention. Ce mode dont j'ai parlé aujourd'hui est peut-être Je ne sais pas comment, dans quelle mesure on pourrait l'articuler avec la vigilance. Disons que peut-être qu'à force d'être sursollicité, de vouloir toujours être happé, l'attention, elle n'arrive pas à. Enfin, notre attention, on n'arrive pas à être attentif à tout. Au bout d'un moment, il faut choisir. Et peut-être que. Enfin, je me demande si le développement de la vigilance, quand la vigilance prend le relais. Lorsqu'on n'est plus capable de se montrer attentif à la multiplicité, à la multitude des stimuli qui sont présents, est-ce que ce n'est pas par un mécanisme d'habitude, d'automatisme presque, qu'on devient non plus attentif mais vigilant aux choses qui nous entourent? Par exemple, je clique de façon habituelle, de façon automatique sur une publication, mais en fait je la lis pas. On fait ça, vous savez, avec les titres qu'on appelle putaclic, excusez-moi. On va cliquer, mais en fait, on va jamais lire l'article parce que le titre nous a suffi. Est-ce que c'est par habitude? Habitude de voir plein d'informations surgir et du coup, ça nous fait un plaisir aussi. L'information alimente le circuit de la récompense. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, en plus de la récompense, l'habitude d'avoir cette récompense et donc un lien qui tend peut-être à s'affaiblir, je ne sais pas, une différence en tout cas qui s'affaiblit avec cette stimulation extrême.
Oui, c'est vrai que c'est une autre piste. Mais après, je vois bien comment vous restez quand même dans une pente qui est une pente très. Quand la vigilance s'affaisse en habitude, elle devient à nouveau négative. Elle est à
Oui,
nouveau,
bien
elle
sûr, il y a
s'affaisse à
ce
nouveau.
côté
Enfin,
positif à revoir, bien sûr, tout à fait. L'attention collective, comment redonner du sens en fait à tout ça et former notre attention aussi, enfin, essayer de résister à ces appels.
tout à fait. Et par exemple, pour prendre un autre exemple, puisque vous parliez d'habitude, ben, on pourrait le réinterpréter dans un autre sens en parlant de veille. Et même sur des sites internet, quand on a une fonction de veille, on veille sur le site. Vous voyez, c'est-à-dire que on s'arrange pour que le site soit protégé, soit toujours actif, soit utile, soit à jour. Donc, d'une certaine manière, on a une fonction ici de soin, pour reprendre votre terme, mais qui peut être vue de manière très positive, très constructive. Du coup, voilà, pour moi, c'est une question. Est-ce que pour changer de concept d'attention et donc aboutir à un concept d'attention qui aurait cette ouverture, cette qualité de vigilance et de soin, est-ce qu'il faut changer de modèle politique et économique? Ou est-ce qu'à l'intérieur de notre modèle, il n'y a pas des espaces et des façons et des ressources qui sont là de toute façon disponibles? Ou encore pour le formuler encore autrement, est-ce qu'au fond, les outils auxquels nous sommes confrontés, ils sont des outils techniques? C'est un peu une banalité, mais bon, ils sont neutres. Enfin, et d'une certaine manière, après, l'usage qu'on en fait, va être orienté dans un sens ou dans un autre. Mais vous voyez, est-ce que.
Oui, tout à fait. Surtout que, enfin, c'est vrai que là, j'ai vraiment axé sur la critique, sur le côté négatif, mais
Oui.
évidemment qu'il y a des choses positives. C'est-à-dire que grâce à cette vigilance qui est surdéveloppée aussi, on peut, voilà, regarder le chat en même temps que je suis en train de vous parler. Bon,
Tout à fait.
là, je vois que tu as des questions, etc. Donc ça, c'est aussi un élément, disons, qui va être, qui devra être creusé pour voir comment contrebalancer. Est-ce que justement ce développement de cette vigilance qui devient hyper vigilante à force
Oui,
d'être
si elle est.
sollicitée, elle peut pas nous aider à contrebalancer ces effets négatifs?
Tout à fait. Et à ce propos, on va donner la parole à Timothée, mais juste à ce propos, je pense que par exemple, il serait très intéressant, à la lumière de ce que vous développez, de relire par exemple le texte très classique de Adam Smith sur la richesse des nations, qui est considéré comme le précurseur du libéralisme à la fois économique et politique. Et qui a une vision qu'on a beaucoup caricaturée à certains égards, mais qui, d'une autre façon, peut être vraiment pensée de manière beaucoup plus différenciée, et qui, justement, alors tout en mettant en valeur l'intérêt personnel de l'individu, l'utilité de ce que fait chaque individu pour son bien premier, etc., développe également la manière dont, justement, cet intérêt personnel, eh bien, il est porté aussi au bénéfice du collectif. Et comment il s'articule justement à une visée qui dépasse l'individu. Donc chez Smith, on a vraiment cette tension, et donc quelque chose de beaucoup plus complexe que une vision simplement unilatérale en fait. Donc est-ce que chez Smith, est-ce qu'il y aurait, donc est-ce qu'on serait dans l'individualisation ou dans l'individuation? Est-ce qu'il n'y aurait pas un potentiel d'individuation aussi chez Smith et pas seulement une individualisation, hein, vous voyez, si je repolarise les choses.
Je pense vraiment qu'il y a une individuation chez Smith parce que il voit pas l'individu. Enfin, tout ce que fait l'individu va s'impacter sur les autres.
C'est ça.
Donc, quelque part, l'individu est intégré pleinement dans le collectif.
Exactement. Exactement. Et ça, c'est très intéressant. Ben, ça complexifie beaucoup la vision qu'on pourrait avoir aujourd'hui de. Alors, vous parliez du néolibéralisme et même de l'ultralibéralisme, enfin, si on veut aller encore plus loin. Ça le complexifie en fait, hein, ça lui donne un statut beaucoup plus nuancé en fin de compte aussi, et beaucoup plus qui peut être constructif, enfin qui n'est pas forcément seulement problématique. Mais bon, voilà, donc je vais lire les questions de Timothée, donc qui nous dit, quand tu parles, donc qui s'adresse à vous Elsa, quand tu parles des logiciels de calcul de son, ce sont, ah pardon, quand tu parles des logiciels de calcul, ce sont ceux. Ce sont ceux qui évaluent, je pense, les choix de la personne et qui suggèrent d'autres contenus en fonction de ses choix. Oui, je me disais qu'il y avait une sorte de solipsisme généré par les réseaux autour de l'individu, alors que la recherche est un lien avec les autres. Donc là, bon, on ne va pas forcément lire ça, c'est pas utile. Mais à quoi bon avoir l'attention des individus? Est-ce simplement une volonté néolibérale économique?
D'abord, je vais déjà répondre à la dernière question sur la volonté néolibérale économique. Je ne suis pas sûre qu'on puisse parler de volonté néolibérale économique, parce que le néolibéralisme, c'est un discours. Un discours qui, selon moi, justifie en fait un système, et un système qui n'a pas de volonté. Il y a des effets, le capitalisme, par exemple, est un système qui a des effets sur les individus. Il est intéressant et important d'analyser ces effets pour les comprendre et essayer de les désamorcer, disons. Mais il n'y a pas de volonté derrière. En revanche, il y a une volonté par les acteurs économiques d'attirer et de capter l'attention, puisque l'attention, elle nous permet de financer des choses, en fait. Quand on regarde une publicité, ça va monnayer la vidéo qui se cache derrière la publicité. Donc c'est un système économique en fait. Ensuite, pour la première question, donc je crois que tu parles des algorithmes, j'imagine, les logiciels de calcul. Alors faut pas oublier que les logiciels de calcul, là encore, il y a des gens derrière. Il y a des individus qui gèrent les algorithmes et qui décident de rendre notre expérience subjective, dans le sens personnalisé, et pour comment personnaliser une expérience, eh ben en utilisant les données qu'on a déjà fournies, et ces données, effectivement, ce sont nos choix. Quand je vais sur Spotify, je mets Stupéflip, et ensuite, on va me proposer d'autres artistes qui sont similaires, qui ressemblent à Stupéflip, ou à Mozart, ou n'importe qui. Je vais toujours avoir la même chose. Ça marche pour toutes les plateformes, elles fonctionnent sur le même type d'algorithme, en fait. L'idée du solipsisme, elle est intéressante aussi, mais je ne crois pas que l'individu se dise que tout se passe dans sa tête et on est tous... Enfin, personne n'est sur Internet, sur un réseau social, sans amis. On est tous ensemble. Enfin, on ajoute tous nos amis, par exemple, sur Facebook, et on fait partie de communautés, on interagit avec des gens... Donc, solipsiste, c'est peut-être un peu fort, mais disons plutôt le terme de bulle, qui est un terme d'Elie Pariser, qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle The Flutter Bubble. Et dans ce texte, il parle de bulles cognitives. C'est-à-dire que les algorithmes nous enferment dans des bulles, parce que, à force de. Enfin, sur les mêmes contenus qui nous sont proposés grâce à nos préférences. Et donc, ça va être difficile d'en sortir puisque l'algorithme, il ne va pas nous proposer quelque chose qui est inconnu pour lui. S'il a l'habitude de nous voir interagir avec certains contenus, il ne voit pas pourquoi il pourrait nous proposer autre chose. Il n'est pas conçu de cette façon. Donc, plutôt, le terme de bulle me paraît plus approprié que solipsisme.
Merci. Merci, Elsa. Voilà, donc
Merci.
Timothée est d'accord, très juste, merci beaucoup. Bon, c'est très bien, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais bon, l'échange, pour moi, c'est très satisfaisant parce que nos étudiants de Rouen sont présents et actifs, donc c'est un très bon point. Donc merci à Timothée d'avoir été notre représentant des étudiants pour l'instant, en espérant que d'autres se manifesteront d'ici la fin de la journée.